9. L'insuccès de Vautrin n'avait pas découragé Balzac. 2 ans après l'orage de la mémorable représentation de cette comédie, il frappait à la porte de l'Odéon, dirigé alors par M. Auguste Lireux. Il ne faudrait pas connaître cet esprit si hardi d'une part, si excellemment littéraire de l'autre, pour douter de son empressement, nous avons presque dit de son emportement, à se mettre à la disposition de Balzac, tentant une seconde fois, et avec le même cœur, la fortune du théâtre. L'esprit d'aventure allait à ces 2 oseurs de première trempe. Celui-ci cherchait toujours une Amérique avec les mines d'or, celui-là venait lui dire « Je vous la porte dans les plis de mon manuscrit ». Quel accueil ! Quelle fête ! « Entrez, lui dit le directeur. Je vous attendais. Entrez, lui dit le théâtre. Vous étiez attendu. Entrez, lui dirent les acteurs rangés sous le péristyle. Nous vous attendions. Entrez, lui dit le caissier. Je ne vous attendais plus. » Il est rare de voir une administration théâtrale faire un pareil accueil à un écrivain dramatique, surtout après une chute. Mais la chute de Vautrin avait fait tant de bruit, est-il vrai de dire, qu'elle ressemblait à un succès, qu'on ne la distinguait même pas d'un succès. C'est qu'il ne s'agit pas à Paris, notez bien ce point essentiel, de savoir au juste, de définir ce que dit le bruit. Est-ce qu'on a le temps ? Avez-vous fait du bruit ? Oui. Vous avez réussi. Mais vous avez réussi. Cependant, vous avez réussi. Du péristyle au foyer, le passage de Balzac fut jonché de sourires, de compliments, de bienvenues, de félicitations. On lui eût jeté des bouquets si l'administration avait voulu en fournir. À l'Odéon, c'est au foyer qu'on lisait alors les pièces, soit pour y être reçues par le comité, soit, quand elles étaient reçues, pour en faire connaître les rôles aux acteurs. Il n'avait pas, à cette époque, le petit caractère pincé d'un musée de province, d'un bazar de peinture destiné à être vendu au profit de jeunes aveugles. Sa physionomie de drap vert était austère, point de tableau, point de meubles, si ce n'est une longue table, des fauteuils massifs, une pendule ennuyeuse, portant sur sa tête une sphère autour de laquelle l'aiguille d'or marquait quelquefois les heures. Voilà tout. C'est à ce foyer qu'un jour d'hiver, Balzac se présenta pour lire « Les ressources de Quinola », comédie en 5 actes. L'assemblée était nombreuse, elle se distinguait par la présence de Madame Dorval. La célèbre actrice se trouvait là, moins par devoir de pensionnaire que par curiosité. On ne présumait pas qu'elle eût un rôle dans l'ouvrage de Balzac. Cependant, on espérait qu'elle y jouerait. De son côté, elle désirait fort qu'il en fût ainsi. On découvrirait peut-être dans le cours de la lecture quelques situations dramatiques échappées à l'inexpérience de l'auteur. Il y aurait alors occasion pour lui de développer un caractère. De là à un beau rôle, il n'y a plus qu'un pas. Quoi qu'il en soit, Madame Dorval assistait à la lecture de Quinola. J'étais assis près d'elle, à l'angle de la haute cheminée. Balzac occupait l'extrémité de la longue table verte, côté du Luxembourg. Il voulut lire debout, du reste ainsi qu'il a lu toutes ses pièces, même Mercadet, et ceci nous rappelle que les acteurs de la comédie française se montrèrent un peu surpris de cette dérogation à la tradition du fauteuil à bras, le fauteuil alexandrin, né le même jour pour mourir à la même heure que le verre d'eau sucrée. La lecture de Quinola commença. Pesante, d'abord, pâteuse, embarrassée, la voix de Balzac s'éclaircissait à mesure qu'il avançait dans la lecture. Elle acquérait plus tard une sonorité grave, parfaite, veloutée, et enfin quand elle était lancée et que la passion arrivait à la suite du drame, elle obéissait alors aux plus délicates intentions de la phrase, aux plus fugitives ondulations du dialogue. C'était bien, presque aussi bien qu'au théâtre. Quelquefois même c'était mieux, parce que c'était plus négligé et par conséquent plus humain. Il lisait surtout avec une grande conviction. Il s'abandonnait, il faisait pleurer, il faisait rire, pleurant et riant lui-même sans être un seul instant retenu par la timidité. Dans le rire, particulièrement, il saisissait, il entraînait. Il vous attelait, pour ainsi dire, à sa grosse gaieté à 4 roues. Et, quoi qu'on en eût, il fallait le suivre, sauf ensuite à distraire de la part qu'on avait un peu trop largement faite à l'ouvrage, la part à laquelle avait droit le lecteur. Balzac lut admirablement bien les quatre premiers actes des Ressources de Quinola. Si l'attention des auditeurs ne se sentit pas conduite sur un chemin bien sablé et bien régulier, et il s'en fallait de beaucoup, elle se plut à courir à travers cette forêt d'intrigues, de surprises, de péripéties, d'événements plantés et taillés à la mode espagnole. Heureuse pour sa part d'oublier les servitudes et les chaînes de notre théâtre, qui est une véritable prison, elle fut charmée de tout cet air et de tout cet espace que lui concédait généreusement l'auteur. Il allait loin dans la passion, très loin dans le comique, infiniment plus loin encore dans la manière de traiter les mœurs. Les esclaves des règles se livrèrent à cœur joie au bonheur de cette franche et complète licence. On était encore si loin de la représentation. Qui donc pensait à ce moment à la représentation, c'est-à-dire au danger? D'ailleurs, n'était-ce pas là une véritable représentation? Tout à coup, la joie, le plaisir, la gaieté, le bonheur s'arrêtèrent, et s'arrêtèrent sec, comme une voiture dont la roue casse. Qu'arrivait-il donc? Mais qu'arrivait-il donc? Il arrivait que Balzac, à la fin du quatrième acte, après s'être mouché, après s'être essuyé le front et le visage, après avoir cherché sous son ample gilet blanc entr'ouvert ses bretelles à poulies pour remonter son pantalon descendu de plusieurs crans par l'exercice violent qu'il avait subi, il arrivait, disons-nous, que Balzac annonçait à ses auditeurs palpitants d'anxiété que le cinquième acte n'était pas fait. Le cinquième acte n'était pas fait. Quelle surprise! Quelle consternation! Que de figures tout à coup allongées, mais ce n'était pas possible! Rien n'était plus vrai. Balzac n'avait pas encore écrit son cinquième acte, quand il était venu bravement au foyer de l'Odéon lire les quatre premiers actes des Ressources de Quinola. On gardait le silence autour de lui. « Je vais vous raconter mon cinquième acte, » reprit Balzac, sans s'arrêter plus sérieusement à l'inconvénient de ne l'avoir pas écrit. Les acteurs se regardèrent avec une surprise nouvelle. « Raconter un cinquième acte !» Inimaginable. Madame Dorval, quoique assez excentrique elle-même, ne parut pas la moins étonnée. Tandis que Balzac se mettait en disposition de raconter son cinquième acte, elle se pencha sur moi et, clignant ses beaux yeux si fins, si bleus et si expressifs, adoucissant sa voix au ton de la confidence, elle me dit « Ah ça, qu'est-ce que c'est donc, mon cher ami, que cet homme-là ? » C'est Balzac, le fameux Balzac. « Parbleu, je le sais bien, mais se moque-t-il de nous ? Raconter un cinquième acte ? Décidément, il se rit de nous. Ne le croyez pas. Cependant, c'est Balzac. Prenez-le comme il est. Est-ce qu'il est toujours ainsi ? Toujours. Quand il remet un manuscrit à ses imprimeurs, est-ce qu'il ne leur en donne que la moitié ? S'il leur en donnait la moitié, il leur donne moins que rien, bien souvent, puisque bien souvent, il ne reste pas une seule ligne de sa rédaction première. Il est donc fou ? Voyons, c'est une autre question que vous posez là. Mais qu'allons-nous devenir sans ce cinquième acte? Le fera-t-il? C'est probable. Mais quand? Ce soir, peut-être. Dans 10 ans, peut-être aussi. Et jamais, aussi. Dans le cas où un autre sujet lui plairait davantage à traiter. Mais Balzac, tout en roulant son manuscrit, tout en le nouant avec une petite corde qu'il avait cherchée dans chacune de ses poches, puis sous la table, et qu'il avait fini par trouver dans le fond de son chapeau, avait réuni des souvenirs épars dans tous les coins de son cerveau et commençait le récit de son cinquième acte. Ce cinquième acte était fort court, quoiqu'il ne le fût pas autant qu'il l'est devenu plus tard en passant au théâtre. Toutefois, il ne se composait guère que de 8 ou 10 petites scènes. Mais 8 ou 10 scènes à exposer, 8 ou 10 scènes d'un cinquième acte, où viennent converger, se réunir tous les fils attachés au premier acte, ce n'est pas là un tour de force ordinaire. Il ne suffit pas d'avoir de l'imagination et de l'éloquence. C'est d'ailleurs chose parfaitement inutile à cet endroit fatal de l'action. Il faut, à cet endroit, un bon sens à toute épreuve, une logique droite, inflexible, afin d'arriver sans déviation au dénouement que rien, sous peine de mort, ne doit faire attendre. Balzac n'était pas l'homme de cette gymnastique sur la corde roide. Il trébucha au milieu du grand inquisiteur, de Don Frégos, de Fontanares, de Faustine, de Not Don Ramon, de Mathieu Magis, de Lotte du Soleil d'Or, de Copolus, de Carpano, d'Esteban, de Gironne et de Quinola. L'improvisation ne lui fut pas heureuse. Il était déjà harassé, il faut aussi le dire, de la lecture des quatre précédents actes. En un instant, il perdit plus de la moitié du terrain qu'il avait conquis dans l'estime de ses auditeurs, esprits mobiles, comme le sont en général les acteurs, sentant vivement, exagérant leurs impressions par la raison même qu'ils ont la sensation rapide. J'eus en petit sous les yeux le désarroi dont je fus témoin 2 mois plus tard à la clarté du gaz dans la grande salle de l'Odéon, le jour de la première représentation des ressources de Quinola. Bien des mauvaises opinions préconçues à la suite de cette maladroite improvisation s'usèrent plus tard en passant sur la meule des répétitions. Mais un dommage réel, irréparable pourtant, en résulta. Madame Dorval déclara, avant que nous fussions sortis du foyer, qu'elle ne voyait décidément pas de rôle pour elle dans la pièce. Pièce qu'elle reconnaissait au surplus, pleine de beauté littéraire du premier ordre et d'observations fines et vraies. Ceci dit, elle noua les brides de son chapeau avec sa pétulance habituelle, donna 2 petits coups secs au flanc de sa robe, toute chiffonnée par la longue séance dont nous sortions, fourra ensuite ses 2 mains toujours fébriles dans son manchon de renard gris, nous salua et sortit. 2 minutes après la sortie de Madame Dorval, il n'y avait plus personne au foyer, si ce n'est Balzac et moi. Une dame voilée, et si impénétrablement voilée que personne ne parvint à voir ses traits, et je n'ai pas besoin de dire si la curiosité fut excitée, était entrée au foyer de l'Odéon un peu avant l'arrivée des acteurs. Elle avait assisté sans changer de place, sans faire le plus léger mouvement à la lecture de Quinola, et elle s'était retirée entre le départ de Madame Dorval et la sortie générale des acteurs. C'est à cette dame voilée que Balzac remit sans dire un mot le manuscrit de sa comédie, quand elle se leva ainsi que nous tous pour quitter le foyer de l'Odéon, où sa présence, qu'ai-je besoin de le redire, n'avait pas manqué d'être attentivement remarquée. Nous allâmes, en sortant de cette chaude séance, Balzac et moi, respirer au jardin du Luxembourg. On croit sans doute que Balzac, les pores encore ouverts à tous les courants dont son esprit avait été traversé, me parla de la lecture de son Quinola, m'interrogea sur l'effet qu'elle avait produit, sur ce que j'avais entendu dire autour de moi, du plus ou moins de mérite de son ouvrage. Balzac ne m'adressa aucune question qui eût trait de près ou de loin aux événements de cette lecture. Il n'y pensa déjà plus. Nous gagnâmes la terrasse qui s'étend du côté de la rue d'Enfer et d'où l'on plane sur les graves compartiments du jardin de Lenôtre, et là, il me parla des embellissements qu'il avait un jour proposés à M. de Cazès de faire à son palais. Il me parla entre autres innovations d'un escalier en spirale qu'on percerait au centre du jardin du Luxembourg et par où l'on descendrait jusqu'aux catacombes, lesquelles s'étendent, comme chacun sait, sous une vaste partie du faubourg Saint-Germain et du faubourg Saint-Marceau. On arriverait par cet escalier torse dont l'entrée serait monumentale à la nécropole parisienne. On n'en prendrait qu'une partie seulement, et cette partie, on l'enfermerait dans des murailles de granit noir qui seraient éclairées par des lampadaires antiques. Il ne comprenait pas que l'édilité de la capitale laissât se perdre sans utilité pour la curiosité des étrangers, auxquels on parle toujours des catacombes de Paris, ce sérieux attrait qu'on a sous la main, ou, pour parler plus exactement, qu'on a sous les pieds. « Faites cela, » dis-je à Balzac, « et demain vous aurez des spéculateurs qui vendront de la bière et ouvriront des bals dans les catacombes. Vous verrez affiché sur les murs de Paris, dimanche, grande fête en l'honneur de messieurs les étudiants à la chaumière des catacombes. » La nuit était venue. Il faisait froid et humide dans le jardin du Luxembourg. Nous en sortîmes pour aller dîner au restaurant Risbeck, où le directeur de l'Odéon avait promis de venir le retrouver dans la soirée. La question de la distribution des rôles serait agitée, grande question, ainsi que bien d'autres questions se rattachant à la mise à l'étude de Quinola. Vers la fin du dîner, le directeur de l'Odéon, ainsi qu'il l'avait promis, se présenta au cabinet où nous étions, et avant même d'être assis, il fit part à Balzac du succès extraordinaire d'enthousiasme que les ressources de Quinola avaient obtenu auprès des artistes de l'Odéon. Lui-même reconnaissait par-dessus tout le monde, dans cet ouvrage, des qualités de comédie d'un mérite tout à fait supérieur. Négligeant de préciser ses qualités, il se jeta, selon ses habitudes généreuses d'admiration, dans un tourbillon de paroles bruyantes, du milieu desquelles se détachaient, comme autant d'étincelles électriques, ces mots. « Génie espagnol, vrai genre espagnol, Calderón, Lope de Vega, grande fantaisie, succès, sans représentation, subvention, double subvention, triple succès, dans 20 jours la toile se lèvera radieusement sur ce chef-d'œuvre. » Pardon, monsieur Lireux, dit Balzac, arrêtant dans la ligne ascendante de son vol pindarique l'impétueux et spirituel directeur, vous comptez donc mettre bientôt ma pièce en répétition, que vous parlez de la représenter dans 20 jours? Mais sans doute, et dès demain, ce soir, si je le pouvais. Avant même que le 5e acte ne soit écrit. Que vous êtes modeste. Comment l'entendez-vous? Est-ce que votre génie ne me répond pas de cet acte et de son mérite? Parlons plutôt des acteurs que je veux vous offrir. Offrez, monsieur Lireux, offrez. C'était l'endroit difficile, le Mont Blanc à traverser. Je ne vous dirai pas que ce sont des aigles, non. Mais nous rachetons par la beauté et la suavité de l'ensemble l'insuffisance des détails. D'ailleurs, s'il n'y a pas de mauvais rôle pour un bon acteur, il n'y a pas non plus de mauvais acteur pour de beaux rôles. Et tous vos rôles sont beaux, monsieur de Balzac. Après ces éloges paradoxaux donnés à sa troupe, monsieur Lireux fit accepter à Balzac les artistes qu'il croyait les plus capables de jouer dans sa comédie, dont il était le très sincère admirateur. Ils se trouvèrent bien un peu divisés sur la distribution du rôle de Faustina, que Balzac eût désiré voir tenu par madame Dorval, mais enfin mademoiselle Héléna Gossin fut acceptée à la place de la grande actrice, trop grande, prétendit l'habile directeur de l'Odéon, pour ne pas faire entrer du rôle des effets dramatiques qu'il n'était pas entré dans le sage et vaste esprit de l'auteur de lui imposer. « Il y aurait eu péril, ajouta-t-il, à laisser espérer au public ce qu'aucun effort humain n'aurait à réaliser, si madame Dorval eût couvert l'affiche de l'éclat éblouissant de son nom. Les grands noms engagent. Comment tenir un tel engagement? D'ailleurs, ajouta Lireux, en modérant l'accent de sa parole vibrante, il faut de la royauté, de la noblesse, beaucoup de noblesse. Vous le comprenez mieux que personne, monsieur de Balzac, pour jouer le rôle de Faustina Brancadori. Brancadori, quel nom exigeant! Or, entre nous, madame Dorval, comme actrice, n'est pas née sur les marches du trône. Elle rend bien, sans nul doute, les sentiments vrais, bourgeois, les sentiments à pied. Mais quand il faut parler en reine et le spectre à la main, non. Mademoiselle Héléna Gossin est l'actrice qui convient à votre rôle. Ne sortons pas de là. Les plus belles épaules de Paris. Elle n'est pas très connue. Mais en France, c'est possible. Mais en Suisse, parcourez la Suisse et vous verrez.
Elle vient de Suisse?
Elle en vient. Il a presque fallu une loi d'extradition pour la faire venir en France. Ses admirateurs suisses s'étaient ligués pour l'empêcher de franchir la frontière. Jugez quel talent!
Balzac me clignait de temps en temps de l'œil comme pour me dire « Il me met dedans ». Lireux me clignait aussi de l'œil pour me dire « Le mettrai-je dedans ?» Ni l'un ni l'autre n'était dupe de cette comédie avant la comédie. C'était un Génois et un Corse qui tenaient les cartes. « D'ailleurs, reprit Lireux, je couvrirai votre actrice des plus riches étoffes que je trouverai dans les vieux fonds de magasins. Jamais actrice n'aura été damassée et capitonnée comme elle. » Le dialogue roula encore longtemps sur ce fond de plaisanterie inséparable des raisonnements les plus sérieux chez le jeune directeur de l'Odéon, mais, je l'ai dit plus haut, Balzac accepta madame Héléna Gossin pour jouer le rôle de Faustina Brancadori dans Les ressources de Quinola. « Maintenant, continua M. Lireux, maintenant que nous voilà tombés d'accord sur le choix des acteurs, arrêtons le jour des répétitions. Commençons-nous demain ?»«
Demain, soit, répondit Balzac.
Où vous enverra-t-on le bulletin ?»
Balzac ne s'attendait pas à cette question qui l'obligeait tout naturellement à faire connaître le nom de la rue et le numéro de la maison qu'il habitait. Sa réponse languissait. « Mais envoyez les bulletins, dis-je, rue... »« Pardon, m'interrompit brusquement Balzac. Pardon. » Je m'aperçus de ma gaucherie.
Balzac n'approuvait pas que je révélasse, même dans la circonstance forcée où il était, l'endroit qu'il habitait. Je me tus. Le directeur de l'Odéon, dont l'esprit mille fois plus vif que le mien avait déjà mesuré tout l'embarras de Balzac, souriait derrière ses spirituelles lunettes et attendait. « Voyons, dit-il à Balzac, vous ne tenez pas à ce que les bulletins de répétition vous soient portés par un garçon de théâtre ?»«
Non, et je pense aux moyens... »
Consentiriez-vous à ce que je vous les fisse parvenir moi-même par la poste ?»«
Oui, par la poste, mais c'est vous causer bien de la peine. Si un autre moyen... »«
J'aurais été seule à connaître votre demeure. »«
Mais je vois, dit l'heureux en essuyant les verres de ses lunettes avec un coin de la nappe,
que ce n'est pas tout à fait là le moyen de votre goût.
Cherchons-en un autre. »«
S'il y en a un autre, murmura l'heureux. »
Je me permis de dire... Si l'on pouvait élever un oiseau qui partirait tous les matins de la maison de Balzac et viendrait prendre dans son bec le bulletin chez le concierge de l'Odéon, on aurait, je crois, vaincu la difficulté. Seulement, il faut trouver cet oiseau.
« Voilà bien comme vous êtes, dit Balzac. Vous plaisantez avec les situations les plus difficiles de la vie. »
L'heureux continuait à éclaircir les verres de ses lunettes.
« Ne peut-on pas se rendre aux répétitions sans l'avertissement du bulletin ?»
demanda Balzac, de plus en plus obstiné à ne pas donner son adresse.
« C'est impraticable. On répète un jour, on ne répète pas l'autre. La veille, on a mis la répétition à 11 heures, le lendemain, elle est pour midi. Votre temps se perdrait en courses inutiles. »
« Allons, dit Balzac en soupirant, allons. Il faut en venir là. J'ai un moyen de recevoir vos bulletins. »
« Et ce moyen, dit l'heureux en replaçant précipitamment ses lunettes, avez-vous un garçon de théâtre intelligent ?»«
C'est un ancien garde du commerce. »
« Diable, trop intelligent. »«
Je plaisante, reprit l'heureux. C'est un employé sur lequel on peut compter. »
Ce mot « compter », s'écria Balzac en riant, et en riant au point de faire partir tous les boutons à la vérité toujours si mal cousu de son gilet. « Ce mot « compter », s'écria Balzac en riant, et en riant au point de faire partir tous les boutons à la vérité toujours si mal cousu de son gilet. « Ce mot « compter » vient ici comme Mars en carême. »«
Pourquoi ? » demandai-je à Balzac.
« C'est que ce garçon sur lequel on peut compter... »
« Sait-il compter ?» s'informa Balzac auprès de l'heureux.
« Il sait compter ? Eh bien, voici ce qu'il aura à faire. Daignez m'écouter. » Muni de son bulletin de répétition, il se rendra chaque matin aux Champs-Élysées.
« Aux Champs-Élysées, » répéta l'heureux.
« Quand il sera arrivé au rond-point de la fontaine. »« Très bien, au rond-point de la fontaine, » répéta encore l'heureux. « Il se dirigera, poursuivit Balzac, vers l'arc de l'étoile, et au 20e arbre à sa gauche, il verra un homme qui fera semblant de chercher un merle dans les branches. »«
Un merle ? » s'écria l'heureux.
« Un merle ou tout autre oiseau. »«
Tiens, mon oiseau qui revient. »«
Je vous en prie, laissez-moi achever. »« Votre garçon de théâtre s'approchera de cet homme et lui dira « Je l'ai. » »«
Cet homme lui répondra « Puisque vous l'avez, qu'attendez-vous ?»
Sur cette réponse, votre garçon lui donnera le bulletin de répétition et il s'en ira sans regarder derrière lui. Le reste est mon affaire.
L'heureux ne vit aucune objection à faire à cette étrange manière d'envoyer et de recevoir un bulletin de répétition. J'ai affaire à Ferragus, auteur dramatique. Il se borna à dire à Balzac « Il est bien convenu pourtant, cher monsieur de Balzac, que si dans la nuit la foudre dévorait le 25e arbre des Champs-Élysées après la fontaine, c'est au 21e que votre homme attendrait le mien. » Les choses furent ainsi réglées, touchant l'envoi des bulletins de répétition de Quinola. Mais il est probable qu'elles furent plus tard modifiées dans un sens moins excentrique et un peu plus en harmonie avec les traditions domestiques des théâtres. Lorsque cet incident eut été vidé, comme on dit au barreau, Balzac, plus à l'aise pour traiter les autres questions qui se rattachaient à ses intérêts, reprit ainsi. « Vous ne supposez pas, cher monsieur l'heureux, que j'aborde de nouveau le théâtre pour me traîner mesquinement dans les voies battues du passé. J'y viens pour innover en tout et pour tout. »
« C'est bien ainsi que je l'entends, » répondit l'heureux, « et vous voyez en moi celui qui ne restera pas en arrière si vous marchez. »
Balzac dit alors, « Premier chapitre des réformes que j'apporte. Je ne veux pas des claqueurs. Je les exécrais à Vautrin, mais je les ai subis pour complaire à l'aveugle routine d'Arel, liée par 1000 liens d'amitié et de papier timbré avec Porcher. Mais je les bannis à Quinola. Bannis
à perpétuité. Pourtant, le parterre de l'Odéon, pépinière tumultueuse d'étudiants, aux premières représentations a besoin d'un paratonnerre intelligent qui s'élève au milieu des orages pour détourner la foudre ou la diriger. Ce paratonnerre, je vous vois venir, ce paratonnerre, c'est la claque. Mais je connais la comparaison. Elle me plaît même à l'état de seconde édition. Mais à la première représentation de mes pièces, je déclare solennellement ne plus vouloir de claqueur. C'est à prendre ou à laisser. Quinola est à cette condition. Puisqu'il en est ainsi, poursuivit Lireux en raffermissant les branches de ses lunettes au-dessus de ses oreilles, puisque vous me parlez avec cette conviction si résolue, aucune considération ne me gêne plus. Franchise pour franchise, mon indignation s'éveille à la vôtre. Oui, vous avez raison, monsieur de Balzac. La claque est la lèpre des théâtres, la maladie honteuse que les hommes comme vous ont mission non pas de pallier, mais de brûler. C'est bien, c'est d'une âme hardie et honnête ce que vous allez tenter là. C'est d'une âme... Pardon, monsieur Lireux, interrompit Balzac d'un ton de voix qui était déjà une note comique en passant sur les cordes métalliques du charmant directeur du Second Théâtre français. Pardon, monsieur Lireux, je ne demande pas l'expulsion de la claque parce qu'elle me semble, comme à vous, une institution immorale, mais... tout simplement parce qu'elle occupe de la place au parterre, et que la place qu'elle occupe ne rapporte rien. « Ah ! Très bien !» fit Lireux, dont l'indignation rentra jusqu'aux manches dans la gaine d'où il l'avait trop tôt sortie. « Ah ! Très bien, très bien ! J'avais mal compris, c'est une question d'intérêt pour vous, une pure question d'intérêt. Une question d'argent ? Que traitons-nous ici ? Une affaire ? Sans doute, une affaire. Parlons donc affaire, monsieur Lireux. Je vous écoute, monsieur de Balzac. » « Quel gaillard !» disaient les deux verres mystérieux des lunettes de Lireux. « Quel gaillard !» D'abord, et il est bon de vous en prévenir, je veux toute la salle pendant les trois premières représentations de Quinola. « Il recommence Vautrin, » dis-je tout bas à Lireux. « J'en ai peur, » me répondit pareillement tout bas Lireux, qui fit cette réponse à Balzac. « Mais alors, corrige moi. La moitié dans les bénéfices, qui seront énormes, incalculables. » Lireux réfléchit. « J'accepte cette condition. » dit-il après quelques secondes. Maintenant, de l'ensemble, passons aux détails. Passons aux détails. Le garçon du restaurant apporta d'autres bougies. Il se faisait tard dans la nuit. Nommez-moi les places de théâtre par leurs qualifications spéciales et techniques, poursuivit Balzac. Et moi, je vous dirai à mesure les spectateurs que je prétends y mettre de mon droit de fermier général de toute la salle. Vous y mettrez, je pense, dit Lireux à son tour, les spectateurs qui auront payé leur billet à la porte. Il n'y a plus de porte, répliqua Balzac avec un geste à la Frédéric Lemaître, dont la mimique le poursuivit longtemps. Comment, il n'y a plus de porte ? Lireux ne savait plus trop ce que cela voulait dire. Je veux dire que les billets seront pris chez moi, et non, comme cela se pratique, au bureau de votre théâtre. On les ouvrira pour la forme, mais voilà tout. Ainsi, ne vous noyez pas dans ces détails oiseux, et veuillez, comme je vous en ai déjà prié, me désigner hiérarchiquement les places de votre théâtre. Vous allez connaître dans quel but je sollicite de votre complaisance ces dénombrements. Le parterre, dit alors Lireux. Très bien, vous m'avez compris. Eh bien, au parterre, je ne veux que des chevaliers de Saint-Louis. Prenez note. L'étonnement en valait la peine. Comment dites-vous ? Se fit répéter Lireux, transfiguré. « Je dis que je ne veux au parterre que des chevaliers de Saint-Louis à la première représentation de Quinola. »« Des chevaliers de Saint-Louis ?» redit Lireux. « Et tués, » ajoutai-je, « au siège de Malte en 1712. » Lireux éteignit immédiatement ma plaisanterie sous ses paroles d'approbation dignes et bien senties. Il avait enfin soupesé l'homme. « Vous n'aurez au parterre à votre première représentation, monsieur de Balzac, que des chevaliers de Saint-Louis. » Seulement, vous vous chargez de les trouver. Je m'en charge. Continuez à me désigner les places, je vous en prie. Orchestre, dit Lireux. À l'orchestre, les pairs de France. Je ne veux à l'orchestre que des pairs de France. Mais l'orchestre, monsieur de Balzac, ne les contiendra pas tous. Ils se tiendront debout dans les couloirs. Loge d'avant-scène. La cour aux loges d'avant-scène. « Avant-scène des premières !» continua Lireux. « Les ambassadeurs et les plénipotentiaires aux avant-scènes !» dit Balzac. Lireux poursuivit son dénombrement. « Baignoire découverte des premières ?»« Là, les femmes des ambassadeurs. »«
« Seconde galerie !» cria Lireux. « Les députés et les grands fonctionnaires de l'État aux secondes galeries !» répliqua Balzac. « Troisième galerie ?»« La haute finance. Achevez, monsieur Lireux. »« Quatrième galerie ?»« Une bourgeoisie riche et choisie !» acheva de Balzac. « Oui, mais les journalistes ?» demanda Lireux en se ravissant. « Où les placerez-vous »«
Ils payeront leur place, s'il en reste. Et il n'en restera pas. »«
Je crains, » balbutia Lireux, « que si vous négligez d'envoyer aux journalistes l'éloge qu'ils sont dans l'habitude immémoriale d'occuper... »«
Encore une fois, pardon, monsieur Lireux, mais j'en ai fini depuis longtemps et fini pour toujours avec les journalistes. » C'est entre nous une guerre de sauvages, ils veulent me scalper à la manière des Mohicans, et moi, je veux boire dans leur crâne à la manière des Muscogulges. »
Lireux retira ses journalistes. Le traité fut ratifié vers minuit de part et d'autre. Les trois premières représentations de Quinola appartiendraient à Balzac, qui aurait également le droit de vendre à qui il voudrait et à tel prix qui lui conviendrait, les 1000 ou 1200 places dont se composait alors la belle et ennuyeuse salle de l'Odéon.